Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi pour évoquer cette victoire annoncée pour 2026, celle des États-Unis, du Mexique et du Canada qui organiseront donc la première Coupe du Monde à 48 équipes. La compétition sera gigantesque et donc le gigantisme des Amériques a primé les principales infrastructures existant déjà. Le Maroc échoue pour sa cinquième candidature à la compétition mondiale et la Coupe du Monde s'éloigne un peu plus du continent africain qui s'est montré désuni sur ce dossier, ce qui n'est malheureusement pas une surprise.
En nom de la Real Federación Española de Fútbol, para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional.
Et oui, la fédération espagnole a dit dehors Lopetegui. Elle a viré son sélectionneur ce matin en Espagne après avoir appris par hasard hier soir que le Basque serait le prochain entraîneur du Real Madrid, le successeur de Zinedine Zidane. En quelques heures, Julen Lopetegui a été remplacé par le directeur technique de l'équipe d'Espagne, Fernando Hierro, ancien international espagnol. Cela peut-il affecter la campagne au mondial de la Roja? On se posera la question dans Radio Foot. Les Bleus dans leur datcha, ils se sont tous entraînés, même ceux qui hier soir étaient plutôt listés comme des blessés, à l'exemple de Sidi Bé, Umtiti et Mbappé. Apparemment, ils vont mieux. On leur souhaite bien sûr une belle compétition, mais vont-ils réellement mieux? On en parlera ici dans Radio Foot International avec Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous, un plaisir.
Bienvenue dans Radio Foot International, cette veille de Coupe du Monde. Nous avons aussi Salim Boumgali de SFR Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis notre confrère de l'équipe, Étienne Moati. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Nous aurons tout à l'heure par téléphone Alejandro Valente, le jefe, qui est déjà sur place du côté de Moscou, et puis François David en Espagne. Radio Foot, c'est parti.
The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
États-Unis, Canada et Mexique, hôtes de la Coupe du Monde 2026. Un choix sans surprise car cette candidature paraissait la plus forte, engagée depuis longtemps, largement soutenue par les dirigeants de la FIFA et le comité d'évaluation qui lui avait mis d'ailleurs une excellente note technique. Enfin parce que les trois pays se présentaient sous la bannière United et ce slogan a vraisemblablement mobilisé les électeurs de la FIFA. Sur 203 votes, 134 sont allés aux Américains dans le sens large du thème. Une victoire sans doute logique, prévisible, sur un territoire donc extra large pour une compétition extra large, la première à 48 équipes et pour la première fois donc dans trois pays organisateurs. Alejandro Valente, vous avez suivi pour RFI ce congrès de la FIFA à Moscou. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alejandro, on l'avait entendu depuis hier sur l'antenne de RFI, la timidité des présidents africains sur leur vote et surtout leur silence parfois faisait croire effectivement que ce serait la candidature des Amériques qui allait l'emporter.
Disons que c'était effectivement compliqué. On sait que depuis que Donald Trump est entré dans l'arène avec un tweet, on se souvient à la fin du mois d'avril, menaçant les pays qui oseraient voter contre les États-Unis alors qu'ils reçoivent de l'aide américaine des conséquences, de toute évidence, le jeu politique a envahi ce vote et probablement certains pays africains n'ont pas échappé à la tentation de transformer un vote sportif en vote politique.
Effectivement, Étienne Moati, ça semblait depuis longtemps décider que ça serait les États-Unis. On se souvient que les États-Unis, en fait, désiraient très fortement organiser celle de 2022 et que, entre guillemets, ils en avaient été privés. puisque le Qatar avait été désigné en 2010.
Oui, c'était le début des ennuis de la FIFA. Donc
oui.
C'est aussi un petit peu pour ça que la Fédération internationale et son président Gianni Infantino militaient assez fortement donc pour le dossier américain au sens large, comme vous dites, parce qu'ils avaient peur que reviennent un petit peu les tourments donc avec le FBI, etc., qui viennent se mêler un petit peu des affaires de la FIFA.
Oui, alors qu'en ce moment, ils sont assez tranquilles. Le dossier suit son cours, on va dire, mais silencieusement.
Très calmement, on va dire. Et il faut dire aussi que c'était quand même le dossier qui était très largement favori, parce que c'est un dossier qui financièrement pèse beaucoup plus que le dossier marocain. Les infrastructures sont là, c'est beaucoup plus simple à organiser. Trois pays quand même importants contre un seul pays de taille moyenne. Évidemment, c'était un petit peu déséquilibré. On a cru à un moment donné que le Maroc revenait un petit peu dans la course, mais je crois que c'était quand même un peu une illusion, parce que les Européens finalement ont été largement en faveur du dossier des Amériques, alors que bon, il aurait fallu qu'ils soient majoritairement pour le Maroc, pour que le Maroc ait une chance. Voilà, en fait, finalement, la logique est rentrée dans l'ordre.
Salim.
C'est ça, logique par rapport au dossier même, hein, puisqu'il y avait eu cette task force qui avait étudié justement les différents dossiers.
Comité d'évaluation.
Et qui avait largement noté en faveur de ce dossier nord-américain, en disant que ce dossier était justement beaucoup plus intéressant.
Il leur avait pas mis 5 sur 5, mais...
Et autres, là où celui du Maroc avait été assez pénalisé, mal noté. Et puis, on parlait de Donald Trump, d'une sorte d'ingérence politique. Alors, ce mot est délicat parce qu'au final, l'ingérence, elle existe dans tous les dossiers. Vous avez souvent des présidents, des premiers ministres et autres qui se disent et qui vont tout faire pour défendre leur dossier. Après, Donald Trump le fait de manière un peu particulière, je vous l'accorde, via Twitter et à sa manière. Après, l'ingérence en soi, elle ne me choque pas. C'est plus, et on en parlera sans doute, de soutien de certains pays qui devaient soutenir le Maroc et au final se désistent au dernier moment. On pensait que le continent africain serait uni, et au final, il n'a pas été tant que ça.
Ouais. Avant de parler de cette candidature marocaine, Carlos Bianchi, en 1994, les États-Unis avaient déjà organisé une Coupe du Monde. Là, ils se retrouvent alliés avec le Mexique et le Canada. Les États-Unis et le Canada n'étant pas des terres spécialement amoureuses du football, ils préfèrent d'autres.
Le Mexique, oui.
Et d'autres sports. Oui, je parle des États-Unis et du Canada. Oui, mais le Mexique aura très peu de matchs, finalement, par rapport à l'ensemble des matchs. Est-ce que vous trouvez que c'est bien quand même que ça se trouve de nouveau sur le continent américain.
Surtout qu'il y a 48 équipes, il sera. Attention, que ça va être la première fois qu'il y aura 48 équipes.
Oui.
Alors je pense qu'il faut les placer à ces 48 équipes, trouver 48 endroits différents.
Exactement.
Les trouver dans un seul pays. Disons que demain on fait la Coupe du Monde ici en France. Il faut trouver...
Allons-y.
Oui, mais 48, il faut trouver 48 endroits.
On a fait déjà l'Euro à 24, nous.
La moitié. La moitié.
On a que la moitié.
Alors, c'est
des
pour ça que je dis que moi, ils sont bien faits. Mais il y a des pays qui n'attendaient pas, qui ont voté pour le Maroc.
Mm-hmm.
Le Brésil, il a voté pour le Maroc.
Mm-hmm. Alejandro, on y vient alors à cette candidature du Maroc. Le Maroc, on avait l'impression qu'on les avait un peu poussé, en tout cas, de la part de la direction de la FIFA, un autre candidat pour pas que les États-Unis soient seuls en piste. Et puis le Maroc s'était vraiment lancé dans la course à l'organisation en août dernier, finalement en réussissant à vaincre les préjugés, on va dire, et à séduire pas mal aussi de pays, et notamment des pays européens quand même. La France, la Belgique, les Pays-Bas ont voté aussi pour cette candidature.
Oui, finalement, le Maroc a été plutôt gentil avec la FIFA et il a évité qu'il y ait une candidature unique, ce qui aurait été un peu problématique. Ils ont monté à la va-vite une candidature qui finalement était assez bien construite, même si elle avait ses faiblesses. Et je pense que les Marocains sont un peu amers parce qu'ils ont l'impression que si bien en Afrique, même s'il y a eu des défections, on a respecté à peu près une certaine discipline de vote, peu de pays hors Afrique se sont laissés séduire, alors que la candidature marocaine avait quand même des atouts. On avait dit une Coupe du Monde à taille humaine, des distances raisonnables, la proximité avec l'Europe. Et finalement, les Européens n'ont pas été si nombreux que ça à voter. Vous avez pratiquement cité tous les pays. On pourrait ajouter les Luxembourg. Mais même l'Espagne, qui est le pays voisin du Maroc, n'a pas voté pour cette candidature. Il faut dire que ce matin, le président Luis Rubiales avait d'autres soucis en tête et il a carrément déserté le Congrès S'abstenant donc de voter dans cette élection.
Oui, parmi les abstentions, on a aussi l'Iran qui n'a finalement pas voté, puis on a aussi la Slovénie qui s'est abstenue et Cuba. Pour ce qui est des abstentions africaines, peut-être ce qui peut surprendre, c'est celle de la Guinée ou du Bénin qui sont plutôt dans la zone d'influence du Maroc, Alejandro.
Oui, c'est un peu étonnant, mais c'est assez curieux parce que hier, avant donc ce congrès, avec Olivier Pron, on s'était rendu à l'hôtel où logeaient les délégations et on avait rencontré aussi bien le président béninois que le président guinéen. Les deux avaient refusé de nous parler au micro. Ils exprimaient l'idée que ce serait bien pour l'Afrique que le Maroc l'importe, mais ils refusaient de dire pour qui ils allaient voter. Tout ça, c'était un petit peu choquant pour nous et je pense que aujourd'hui il y en a un qui nous a dit même bah vous verrez demain pour qui on va voter. Bah on a vu
il y avait eu des défections très claires, par exemple l'Afrique du Sud qui a été le premier pays à organiser et accueillir une Coupe du Monde sur le territoire africain. Il a peut-être envie de le rester longtemps en fait, Salim.
Oui, c'est peut-être ça, mais effectivement au final ce qui choque c'est effectivement ce manque malgré tout d'unité africaine, parce que oui, Alejandro le dit, la majorité des pays ont effectivement voté pour le Maroc, mais pas tous. Au final, il y a quand même une douzaine de pays africains qui n'ont pas fait ce choix. Et puis aussi, par rapport à l'influence du Maroc, ou en tout cas la zone marocaine, de nombreux pays arabes, au final, n'ont pas voté pour le Maroc aussi, avec l'Arabie Saoudite qui était en tête de liste pour voter pour les États-Unis. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite qui a créé une sorte de mini-lobby pour tout faire pour voter pour les États-Unis. Là, on voit pourquoi. Évidemment les intérêts géopolitiques qui existent.
L'Iran n'y a pas voté pour le Maroc.
L'Irak, effectivement, a voté pour les États-Unis. Et l'Irak aussi a voté pour les États-Unis. Le Koweït a voté pour les États-Unis. Oui, l'Afghanistan a voté pour les États-Unis. Le Pakistan a voté pour les États-Unis. Oui, aujourd'hui, c'est l'intérêt géopolitique qui compte et non plus l'intérêt géopolitique.
Je crois que c'est une question de logique. Moi, je dis, quand tu as 48 équipes et
c'est
48 pays...
Vous pensez que c'est plus un choix sportif, finalement, que...
Non, il ne faut pas aller chercher plus loin
que sur le plan politique.
Mais pourquoi il faut chercher la politique? C'est une
Parce qu'il y a eu un message très fort du président Trump.
Mais lui, il parle toujours fort. Il faut l'écouter quand on veut, quand on veut pas.
C'est aussi quand même et surtout un choix financier qui a été fait évidemment par la FIFA, mais aussi par les fédérations, parce qu'on parle toujours de la FIFA, mais l'argent que récolte la FIFA, même si elle en garde un petit peu pour son organisation, il est redistribué à l'ensemble des fédérations. Et le dossier donc nord-américain était financièrement deux fois plus avantageux que le dossier marocain. Donc forcément, quand vous votez, vous pensez aux retombées économiques pour votre fédération, pour vos infrastructures, et vous choisissez quand même un petit peu logiquement là où on va vous donner le plus d'argent.
Etienne, ça sera même apparemment 4 fois plus que n'avait rapporté la Coupe du Monde au Brésil, c'est-à-dire celle de 2014, puisque les gains pour la FIFA sont estimés à 11 milliards de dollars. Donc effectivement,
les Américains sont évidemment davantage susceptibles d'attirer des très gros sponsors que peut l'être le Maroc. Ça peut être dommage, on peut le regretter, mais c'est une réalité.
Peut-être aussi parce que ils ont des infrastructures déjà pour l'essentiel, disons, existantes, des grands stades, des hôtels, ce qui est infrastructure.
Des autoroutes pour les
déplacements.
Pour les déplacements d'une ville à l'autre.
Bien sûr.
Mmh. Et juste en parlant de cette candidature nord-américaine, pour les États-Unis, en se focalisant sur vraiment ces États-Unis, vous avez donc la Coupe du Monde 2026, vous avez aussi les JO de 2028, en l'occurrence, qui seront également là-bas, en l'occurrence, puisque c'est à Los Angeles que ça se déroulera. Donc pour les États-Unis, économiquement parlant, c'est royal pour les compétitions sportives.
Voilà pour ce qui est de ce dossier. Alejandro Valente, donc direction l'Amérique du Nord à nouveau, ou peut-être qu'une deuxième fois en 20 et quelques années, ça va contribuer à développer le soccer en territoire nord-américain.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en votant pour les États-Unis, des pays sud-américains, se sont un peu tirés une balle dans le pied parce que, vous savez, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay sont candidats à organiser la Coupe du Monde en 2030, mais il y a peu de chances pour que deux Coupes du Monde successives puissent se dérouler sur le sol américain.
Oui. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire donc pour surtout la candidature malheureuse du Maroc qui donc pour la cinquième fois tentait d'organiser. On imagine qu'en 2030, Alejandro Valente, ça sera le centenaire de l'organisation de la Coupe du Monde. Et alors l'Uruguay peut-être pas tout seul, mais pourrait organiser ou accueillir l'événement.
On en a parlé, mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que la FIFA.
Eh oui.
Donne deux Coupes du Monde successives sur le sol américain.
Sur le sol américain.
C'est à voir.
Bon, alors peut-être, qui sait.
Il y a toujours une première fois.
peut-être en Afrique cette fois-là.
Il y a toujours une première fois, Alejandro, vous y l'autre Argentin.
Bah oui, forcément.
Au micro. Merci beaucoup, Alejandro.
Salut, Alejandro. Ciao, ciao.
Bonne Coupe du Monde. Le premier coup de tonnerre à la Coupe du Monde 2018 nous vient d'Espagne, avant même le coup d'envoi d'ailleurs, à 48 heures de l'entrée en compétition de l'équipe nationale, La Roja décapitée ce matin, au lendemain, il est vrai, d'une annonce qui avait beaucoup surpris. Julen Lopetegui, le sélectionneur de l'Espagne, sera la saison prochaine le successeur de Zizou. Il doit diriger l'équipe du Real Madrid. La nouvelle a déjà provoqué un véritable ouragan, donc, puisque l'Espagne fait partie des favoris de la compétition. Alors, nous sommes en ligne avec François David, notre correspondant en Espagne. Bonjour François.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
François, pouvez-vous décoder pour nous pourquoi la Fédération Royale Espagnole a décidé de prendre cette décision qui peut, comme ça, paraître insensée ou mettre en péril, en tout cas, les atouts sportifs de l'équipe nationale?
Après, il faut voir les conséquences qu'aurait aussi le fait de maintenir Julen Lopetegui à la tête de la sélection espagnole. Alors, il faut vraiment différencier la fédération espagnole avec son président, le jeune Rubiales, qu'on a vu un petit peu partout, là, cet homme sans cheveux, qui détonne un petit peu dans le milieu du football espagnol, un homme jeune, des joueurs. Les joueurs, eux, voulaient que Julen Lopetegui continue à la tête de la sélection espagnole. Il a fait de l'excellent travail depuis 2016, depuis sa nomination, aucune défaite pour l'équipe d'Espagne, un parcours en qualificatif presque exceptionnel, avec un super jeu. On avait retrouvé le jeu vraiment de la Roja, avec un changement générationnel en plus. Il avait mis petit à petit des joueurs qui se montraient, comme Lucas Vázquez du Real Madrid, Asensio du Real Madrid, avec une base intéressante avec des joueurs du Barça, de Valence, des joueurs venus de l'étranger, des vrais choix. C'est vrai que maintenant, la fédération s'est sentie trahie, parce que Julen Lopetegui, qui avait prolongé son contrat il y a 15 jours avec la fédération espagnole, eh bien, depuis quelques heures, négociait dans le dos de la fédération avec le Real Madrid. Alors, c'est vrai que le poste du Real Madrid ne se refuse pas, mais la fédération espagnole s'est sentie trahie et a préféré trancher. C'est un débat aussi en Espagne. Est-ce qu'il aurait fallu garder Lopetegui et tenter d'emporter une deuxième Coupe du Monde, ou alors montrer que la fédération espagnole était au-dessus de tout? Eh bien, ça a été le choix de Rubiales, le président de la fédération, qui a privilégié l'honneur de la fédération à peut-être un succès sportif qui aurait pu exister. Maintenant, vous avez dit, Annie, que l'Espagne faisait partie des favoris. C'est sûrement beaucoup moins le cas désormais, où l'Allemagne et le Brésil sont figures d'épouvantail.
Oui, on va y revenir sur tout cela. D'abord, Carlos Bianchi, sur cette décision, vous trouvez que la fédération a eu raison?
Moi, je crois que, surtout qu'il avait signé un contrat, ça fait 15 jours,
oui,
de prolonger le contrat.
Lopetegui devait rester jusqu'en 2020 avec la fédération.
Lui, avec l'entraîneur, il peut faire des démarches pour aller ailleurs. Mais je dois le mettre couronne à celui qui m'a donné du travail.
C'est-à-dire
le président de la fédération espagnole. Je prends le téléphone, je lui dis, je peux vous voir, s'il vous plaît. J'ai ça et ça. Nous pouvons parler. Et c'est fini. Mais que le président, il soit mis au courant par les journalistes, ça c'est quelque chose qui, c'est une trahison.
François David, est-ce que c'est aussi peut-être une imprudence, voire une provocation de Florentino Pérez, qui s'occupe lui de ses affaires et de ce qui se passe au Real?
Ah bah, ce qui l'intéresse, c'est plus le Real Madrid que la sélection espagnole. Évidemment, il voulait être le meilleur technicien possible. Qu'est-ce qui peut être meilleur finalement que le technicien de l'entraîneur espagnol, un entraîneur jeune qui a des bonnes idées et qui peut représenter le successeur idéal pour Zidane? C'est vrai que Lopetegui, sur le papier, c'est super, mais le timing est très très mauvais, comme le disait Carlos. 5 minutes avant le communiqué officiel du Real Madrid, le président de la fédération espagnole était au courant. Donc c'est pas très classe.
Étienne Moati, vous êtes sur la ligne de Carlos?
Oui, je suis complètement sur la ligne de Carlos,
non,
surtout.
C'est vrai.
C'est vrai, ça peut arriver. En revanche, je suis d'accord avec personne, mais face à une telle légende, on est obligé de s'incliner. Non, je suis d'accord avec l'analyse qu'il fait, c'est-à-dire que c'est une énorme maladresse de Lopetegui, parce que, évidemment, si il tient au courant le président de sa fédération un petit peu avant, on peut imaginer qu'il n'y a pas donc de vexation, il n'y a pas de drame, et que c'est géré de manière différente en termes de communication, et pour le dire assez crûment, il passe pas pour un imbécile. Là, c'est le cas, donc il a une réaction. En revanche, là où je suis un tout petit peu moins d'accord avec Carlos, qui devient une réaction excessive, parce que on peut essayer de manger un tout petit bout de son chapeau et de se dire que finalement c'est
on
pas si grave.
Après.
Il y a une sélection qui va démarrer sa Coupe du Monde. Il y a un entraîneur qui est respecté, plutôt apprécié par ses joueurs. Il n'y a pas de drame absolu. On fait cette compétition. On en reparlera après. On va expliquer à Lopetegui qu'il s'est pas exactement bien conduit, qu'il aurait fallu faire les choses différemment. On lui fait éventuellement un petit peu la gueule pendant la compétition et puis on voit comment les choses se passent sportivement et on oublie.
Parce que là, on a l'impression, Salim, que finalement, ceux qui ont été oubliés dans tout ça, c'est les joueurs.
Exactement, parce qu'il y a, début ou pas, on le verra dans les prochaines heures, dans les prochains matchs, dans les premiers matchs en tout cas, il y a aussi un début de fracture avec ces joueurs qui, eux, soutenaient Lopetegui. Alors même si Sergio Ramos, après la décision finale de la Fédération Espagnole, a tweeté « Nous sommes ensemble derrière le maillot, derrière l'écusson espagnol ». Mais c'est vrai que d'un côté, donc, vous avez une fédération, de l'autre, donc, des joueurs qui ont une position avec un entraîneur qui n'est plus là. Enfin, à un moment donné, alors certes,
et un entraîneur
y a des gens...
surtout qu'ils vont retrouver après la compétition, parce que les joueurs du Real Madrid, Lopetegui, ne peuvent pas dire « Qu'est-ce qui s'est mal comporté ?» Puisque évidemment ils vont le retrouver comme entraîneur.
Exactement. Alors certes, vous allez maintenant avoir Fernando Hierro qui est une légende en Espagne, donc qui est respecté, qui était déjà dans le giron de la fédération, donc vous le connaissez. Mais est-ce que vous allez écouter comme vous avez écouté Lopetegui pendant deux années, qui vous a donné les consignes qu'il fallait et avec qui vous avez tout gagné? Ça, c'est autre chose quand même.
Tout passe par l'intelligence des joueurs. Ces joueurs-là, ils sont intelligents.
Oui.
Ils sont des joueurs de Barcelone, Real Madrid.
Si.
Ils ont gagné des choses, ils sont boulangués beaucoup, ils ont fait des kilomètres dans le football. Ils vont être intelligents, ils vont se placer un joueur de football en sachant très bien que la sélection d'Espagne, c'est le plus important. C'est fini. Du moment que la décision, elle était prise, bon, qui est-ce qui arrive? On parle avec lui.
Mais
Hierro, c'est quelqu'un de très intelligent, il va rien changer.
Il ne peut rien changer,
non,
de toute façon, à deux jours de la compétition.
Il va parler avec Iniesta, il va parler avec Ramos, les mecs qui s'est fait 30 ans qu'ils jouent. Et alors,
bien sûr.
Carlos, mais les joueurs, ils ont des égos aussi. À un moment donné, ils voulaient tout faire pour que Lopetegui reste. Et au final, on les écoute pas.
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis plutôt du côté de Carlos.
Les joueurs, Ancelotti voulait pas qu'ils s'en aillent au Real Madrid, hein. Il voulait pas qu'ils s'en aillent. Mm-hmm. Et quand il est parti.
Mais là, c'est un président privé d'un club privé.
Le joueur, il faut se mettre une chose dans la tête. Que les joueurs, c'est pas une question d'égoïsme. Mais c'est une question de professionnalisme.
Alors,
il
Carlos...
doit jouer et c'est fini. Les choses, ils sont arrivées comme ça. Ciao.
Carlos, est-ce que même si Hierro n'avait pas été nommé, par exemple, à la place de Lopetegui, est-ce que ça veut dire que finalement une sélection de ce calibre, qui est celle d'Espagne, peut s'autogérer?
Mais ça fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Ça ne sert à rien, les sélectionneurs.
Non. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit un jour, Fiorentino? Les entraîneurs, il faut que ça dure 6 mois. Au bout de 6 mois, il faut le mettre à la porte.
Ah oui, mais
il a dit ça.
Pourtant, on a l'impression que c'est mieux quand ça dure plus longtemps.
Et alors,
ces joueurs-là, comme a dit Carlos, c'est des joueurs du Barça, sont des joueurs du Real Madrid, c'est des joueurs qui ont tout gagné en club et en sélection. C'est des joueurs qui sont d'une immense maturité.
Certains
moi, je
ne
crois pas du tout à la thèse qu'ils vont être perturbés, déstabilisés. Je veux dire, ils savent très bien comment ils doivent jouer. Ils savent faire l'union entre ces deux clubs pour faire une sélection extrêmement forte. Et franchement, qui y a sur le banc aujourd'hui pour l'équipe d'Espagne, je pense que c'est pas le cadet de leurs soucis.
Alors, ça va
loin.
Les rendre plus forts?
Peut-être. On a vu ça d'abord, je suis pas persuadé qu'ils en aient besoin, parce qu'ils sont déjà quand même très très forts. Parmi des favoris de la compétition. Et on a vu ça souvent dans des compétitions où des joueurs, donc un petit peu retranchés et un peu seuls contre tout le monde, réussissent à se fédérer et à faire des résultats formidables. C'était par exemple le cas de l'Italie en 82, qui a été championne du monde en opposition avec tout un pays. Donc ça peut aussi très bien fonctionner comme ça.
François-David, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un énième épisode d'une espèce de guerre Barça-Réal où on se retrouvait avec un sélectionneur qui déjà était passé par le Real mais aussi par le Barça et qui là était plus identifié maintenant Real Madrid?
Bah alors avant tout, c'est le plus gros choc qu'a connu le football espagnol dans son histoire.
C'est le plus
gros traumatisme, le plus gros traumatisme qu'ils aient connu, et c'est tout frais. L'Espagne ouvre quand même son mondial dans deux jours contre le champion d'Europe qui est le Portugal. Entre parenthèses, Lopetegui va être le prochain entraîneur si jamais il change plus Cristiano Ronaldo, et Lopetegui avait dit il y a quelques semaines que Messi était le meilleur joueur de l'histoire. Donc autre peut-être problème en vue, il faudra en reparler à Nice. Après, non, je pense pas. Je pense que, comme dit Carlos, Etienne et Sabine, il faut une unité, je pense, désormais autour des quatre que vont être Sergio Ramos, Iniesta, Gérard Piqué. Des joueurs intelligents qui ont tout gagné et qui sauront faire la part des choses. Vous avez dit que une section pouvait s'autogérer, c'était aussi le cas de l'équipe de France en 2006, il s'était autogéré complètement autour d'un grand chef qui était Zidane. Donc on attend les grands chefs de l'Espagne, mais effectivement non, ça va être une inconnue l'Espagne, mais ça va être très intéressant à suivre.
C'est vrai qu'entre Ramos et Piqué, les grands chefs, on a l'impression qu'ils sont là, Salim.
Et juste un regard par rapport à ces décisions espagnoles, un regard en Angleterre, et notamment des nombreux fans de Manchester United qui sont très heureux de voir Lopetegui être viré. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que Lopetegui, futur entraîneur du Real, qui n'aura donc plus dans son giron, entre guillemets, ou pas loin, David De Gea. Ce De Gea, beaucoup le voient partir de Manchester United et aller au Real Madrid. Vous imaginez, c'est l'entraîneur du Real qui l'avait pendant un mois et demi, même davantage, on va dire, sous son giron, à lui expliquer, faut que tu viennes au Real. Les joueurs, les supporters du United avait très peur, mais là au final il n'est plus là, donc potentiellement peut-être qu'il restera à United.
Qui
peut-être
sait. En tout cas, François, une dernière question: qui est Fernando Hierro? Il n'a pas une grande carrière comme entraîneur ni comme sélectionneur, par contre c'est un international de la Roja, et on a même découvert que en 89 sélections, il est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe d'Espagne.
Ouais, 127 buts avec le Real Madrid, 29 en 90 matchs je crois avec l'Espagne. C'est une légende, c'est un défenseur au milieu défensif. À la fin de sa carrière, il jouait plus en défense, il a gagné les Ligues des Champions avec le Real Madrid, un grand professionnel, respecté par tout le monde. Il a été l'adjoint de Carlo Ancelotti quand Zidane avait pris le Real Madrid Castilla, l'équipe B du Real Madrid. Il a été directeur sportif de la sélection espagnole. En revanche, effectivement, son parcours en tant qu'entraîneur en chef d'une équipe professionnelle, c'est le Real Oviedo, c'est sa ville, hein. Il vient de là-bas, Fernando Hierro, et il a eu 39% de victoires dans sa courte carrière d'entraîneur. Alors, évidemment, c'est pas le même calibre de joueur qui va avoir maintenant, des joueurs beaucoup plus expérimentés. C'est une sélection, c'est différent. Mais bon, il n'a pas non plus un grand parcours. Maintenant, on l'a vu avec Zidane, hein, on n'a pas besoin d'avoir un grand parcours d'entraîneur pour faire un super coach. Maintenant, il va peut-être se révéler. C'était le seul, finalement, à avoir le carnet d'entraîneur, le titre d'entraîneur, parce que c'était le seul disponible tout de suite. Il y avait aussi Luis Enrique qui s'était présenté, mais c'était, il y avait beaucoup plus de risques, finalement, que Hierro, qui était déjà en Russie,
sur place,
qui accompagnait l'équipe. Donc c'est le choix le plus logique qu'a fait Rubiales et la Fédération Espagnole.
Et le plus simple, d'autant qu'il y aurait une autogestion couve dans ce vestiaire. Carlos, vous qui avez été grand entraîneur sans être sélectionneur.
Non, je vous explique. Lopetegui, il n'a pas une grande carrière comme entraîneur de club.
Non.
Il a entraîné la sub-20, et sous 18 ou 19.
Les moins de 18, les moins de 20.
Il a pris une équipe au Portugal de quelconque. Et l'histoire de Lopetegui, c'est pas tellement de titres, attention.
Mais ça se passait très bien.
Et ils l'ont mis, Espagne, il y avait des mecs qui étaient plus importants que lui, ils l'ont mis à lui. Hein.
Ouais, mais les autres veulent pas forcément l'être.
Mais comme on en parlait il y a quelques minutes quand on évoquait Zinedine Zidane, au final, en tant qu'entraîneur, il n'avait rien fait, mais au final, les joueurs, et là on parlait de l'intelligence des joueurs à juste titre, et vous avez raison, il y a un respect aussi qui se dégage. Hierro, en tant que joueur, ça a été plus qu'une légende. Enfin, il a fait ce qu'il fallait avec les sélections espagnoles, même s'il n'a pas gagné. Mais en club, il l'a fait. Et je rappellerai qu'il a fini sa carrière en Angleterre aussi, hein, à Bolton, à l'époque où Ivan Campo également était allé en Angleterre.
Ouais,
à Bolton.
Ivan Campo,
de toute façon, il ne va devoir faire que de la gestion humaine, parce que c'est pas à deux jours de la compétition que vous allez changer le système de jeu de l'équipe d'Espagne.
Il
de toute façon, des joueurs qui jouent comme ça depuis très longtemps, il va juste falloir faire des choix. Mais je pense que le 11 de départ espagnol, on le connaît à peu près. Donc, ça va être juste de la gestion humaine avec les blessures et mobiliser tout le monde. Et les motiver, et puis c'est tout.
Et en plus, que lui, il était dans l'entourage.
Juste un dernier point, Annie. Oui. C'est pas un aboyeur, Hierro. C'est quelqu'un de très calme, qui va accompagner les joueurs, un petit peu de la même manière qu'au Real Madrid, les derniers entraîneurs qui avaient gagné la Ligue des Champions, c'était des entraîneurs calmes, pondérés, pas des provocateurs. Et bien, Hierro, c'est exactement ça. C'est pas un aboyeur, c'était un très grand joueur, un joueur dur sur le terrain aussi. Mais dans les relations humaines, c'est quelqu'un de très bien. Et ça aussi, ça peut compter.
En tout cas, entrée en matière très importante pour l'Espagne, puisque elle est dans le groupe avec le Maroc, le Portugal et l'Iran, on le rappelle. Et surtout, le premier match, c'est vendredi soir à 20h avec un Espagne-Portugal qui promet, n'est-ce pas?
François. Ah oui. Bah, c'est le grand choc. Cristiano Ronaldo qui va affronter l'Espagne, mais avec toute cette inconnue, là, c'est presque un match mystique qu'on va voir. On va voir vraiment ce que vaut cette équipe d'Espagne. Et bien, Lopetegui, 48 heures plus tard, contre le champion d'Europe et Ronaldo. Ça va être génial.
Voilà, ça sera très intéressant. Merci beaucoup, François David, d'avoir été dans Radio Foot International. À très bientôt.
À plus tard.
Bienvenue en Russie, les amis. Allez, les petits.
Et oui, on se met aux Russes et à la Russie dans Radio Foot International. Et on va parler des Bleus, cette équipe de France qui, elle, a toujours Didier Deschamps à sa tête, à cette heure en tout cas, on le croit, et tout le monde dans son effectif jusqu'à présent. Plusieurs nouvelles, en fait, hier soir, en provenance d'Istra, avaient quelque peu semé le trouble, voire provoqué des frayeurs. Et à commencer, par Kylian Mbappé, ce jeune attaquant vers qui tous les regards se portent pour ce qui est de l'équipe de France, qui suscite tant d'espoir, et hier soir, patatras, le voilà blessé, on voit un tacle par derrière, assez spectaculaire, on va dire, d'Adil Rami, sur sa cheville gauche, et il sort, il part au vestiaire, Salim, on a tous eu peur.
Ouais, c'est ça, avec son t-shirt qui est jeté au sol, on se dit, oh là, il est sérieusement blessé.
Ouais, c'est pas trop son style,
non,
en plus.
Non, exactement, il exagère pas, a priori, en tout cas, on le voit pas régulièrement faire cela, donc c'est vrai qu'on s'est dit, ça a l'air grave, et là, on s'est tout d'un coup dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Deschamps va devoir va devoir admettre son départ, etc. En plus, certains voyaient, c'est un Marseillais qui a blessé un Parisien. Bon, oui, ça va très loin,
ça
évidemment.
Ça va vite sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Ça, c'est vous qui l'avez pensé, la journaliste.
Oui,
on va critiquer un petit peu. On va s'aimer un petit peu la merde.
On va se faire dehors de la corporation, bien sûr. C'est un coup à la cheville. Les joueurs, ils en prennent beaucoup des coups pendant des matchs, voire pendant des préparations, Carlos.
Mais il y a des coups et des coups. Tu sais, il y a des fois que on te touche sans le faire exprès.
Bah, on voit Neymar
comment ça se pète le pied. Alors, c'est pour ça que je dis, des fois, il arrive des blessures que tu t'attends pas, sans que ce soit un coup très fort.
Quand le joueur dit sur les réseaux sociaux justement, Étienne, que ça va, que tout va bien, et surtout qu'on ne pourrisse pas son copain Adil Rami, qu'on ne lui fasse pas des misères en lui reprochant quelque chose, on peut le croire.
On peut le croire, mais quand Kylian Mbappé tombe par terre et touché, se tient la cheville, je le vois pas beaucoup sourire et dire tout de suite à Adil Rami, écoute, non, il y a pas de souci, t'inquiète pas, tu l'as pas fait exprès, c'est pas grave. Je crois qu'à ce moment-là, le joueur, il est extrêmement inquiet, il se demande s'il est capable de rater une Coupe du Monde pour en dire une bêtise entre guillemets, donc de son coéquipier. Évidemment, une fois que les choses s'arrangent, le sourire reprend, et comme le disait Carlos, dans un entraînement, il y a forcément toujours un petit peu de contact. Sinon, c'est pas un entraînement et préparez pas la compétition. Maintenant, on essaie d'imaginer si Adil Rami avait blessé Kylian Mbappé, qui devait rentrer à la maison et pas disputer la Coupe du Monde. Je pense que le pauvre Adil Rami, il en aurait été pas entendu parler pendant tout le reste de sa carrière et au-delà.
Sans doute. Alors, plus inquiétant, par contre, ce sont les genoux de deux des défenseurs de ce groupe de 23, et notamment celui de Djibril Sidibé. Hier soir, certains de vos confrères au journal L'Équipe annonçaient qu'il pourrait être forfait. Or, tout à l'heure, on a cru comprendre que sans problème, il reprenait le chemin de l'entraînement pour ces jours prochains jusqu'au match qui se déroulera pour la France samedi.
Il reprend le chemin de l'entraînement. Est-ce que c'est sans problème? Je crois que c'est là toute la question, parce que Sidibé, il a fait un choix après sa blessure au genou de ne pas être opéré. Évidemment, il avait la Coupe du Monde en tête quand il fait ce choix-là, parce que normalement, vous faites une opération, et c'est ce que d'ailleurs souhaitait son club. Mais lui, il pensait évidemment à la Coupe du Monde, donc il a privilégié cette piste-là. Ça a commencé à fonctionner, puisque donc il a repris la compétition avec Monaco, plutôt pas mal. Aujourd'hui, il commence à avoir donc des douleurs. Jusqu'où ça peut l'emmener? Est-ce qu'il est capable et de jouer d'abord le premier match contre l'Australie? Il faudra voir, parce que pour l'instant, on a plutôt le sentiment que c'est Benjamin Pavard qui va être titularisé. Est-ce qu'il pourrait de toute façon enchaîner les matchs les uns après les autres? C'est une autre interrogation. Donc Didier Deschamps, il a pris des risques avec ses latéraux, que ce soit d'un côté Sidibé, de l'autre côté Benjamin Mendy, qui avait quasiment pas joué de la saison. C'est un pari risqué.
Carlo,
Pardon, je rebondis sur le propos d'Étienne, digression sur l'AS Monaco qui, de manière assez étonnante, quand même facilite le travail des sélections. Le cas Sidibé, alors que Monaco, vous l'avez très bien dit, Étienne, voulait absolument faire opérer le joueur, finalement c'est pas le cas. Camille Glick également, la semaine dernière ou il y a quelques temps, on parlait de son forfait, et finalement Monaco, après examen d'épaule, a facilité là également son retour en sélection.
Mais de toute façon,
alors
que sont les joueurs qui décident s'ils font opérer ou pas, donc c'est pas le club. Même si le club, il est l'employeur,
mais le club fait tout potentiellement pour qu'il soit opéré, ouais, parce que le club, entre guillemets, pardon, mais s'en fiche de la sélection. Le
il
club
a plus intérêt à ce que ses joueurs soient bien pour la saison prochaine.
Exactement, oui, c'est ça.
Mais le cas de Sidibé, c'est que c'est lui qui décide, je me fais opérer ou je me fais pas opérer. C'est le ménisque ou c'est le ligament?
C'est le ménisque.
Les ménisques, du moment qu'il se coince pas, je suis opéré des deux ménisques.
Et moi d'un seul.
Ouais. Mais non, mais moi, quand je jouais, j'étais presque.
C'est la différence avec un grand joueur.
C'est ça, un grand champion. Ouais. Toujours deux fois plus que les autres.
Un des deux genoux, un, je me suis fait opérer à 20 ans. Et l'autre, que je me suis fait opérer à 30 ans, je m'avais blessé à 19 ans. Et je n'ai eu plus de rechute. Je fais toute la carrière en France. Je rentre en Argentine. Au cinquième match que je joue en Argentine, il s'est coincé. Et je fais presque toute ma carrière avec un passement. De ménisque,
oui,
un passement de ménisque.
Et Carlos, est-ce que un sélectionneur doit ou un entraîneur doit trancher dans le vif à un moment à la veille d'une très grande compétition? Parce que on sait que il y a un délai de la FIFA jusqu'à 24 heures avant le premier match de la compétition, c'est-à-dire jusqu'à vendredi. En gros, Didier Deschamps peut échanger son joueur. Et il y avait déjà des rumeurs qui murmuraient un nom de remplaçant.
Annie, du moment que vous venez de dire dès qu'aujourd'hui, il a repris l'entraînement avec tous les groupes. Je pense qu'il
c'est
a
pour
repris
le test aujourd'hui.
Je pense qu'il a repris le travail avec le groupe pour voir jusqu'où il peut y aller. Parce qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui,
on
il y a
peut encore changer.
Mais le changement n'est pas automatique. C'est-à-dire que la FIFA vous autorise donc à changer un joueur 24 heures avant le démarrage de votre compétition à partir du moment où c'est une blessure importante qui survient. Pendant la préparation de la Coupe du Monde. Si vous avez amené un joueur blessé
sur
et que finalement il ne s'avère pas capable de disputer la compétition, les médecins de la FIFA peuvent considérer que vous n'avez pas le droit de le remplacer.
Oui, il a raison lui. Hein. Je crois que là c'est différent parce que vous avez pris le risque. C'est la France qui a pris le risque.
Alors, de toute façon, le risque, il le prend en se cachant, puisque Antoine Grenier nous rappelle bien que l'entraînement est à huis clos aujourd'hui. Donc, hier, il y avait plein de monde pour regarder, même Mbappé tomber,
mais nos journalistes à l'équipe, ils savent faire des trous dans les bâches et regarder ce qui se passe normalement.
Ah oui, bon, mais je pense que c'est des réfis.
Ils dans les arbres, etc.
Bien sûr, c'est des réfis, les aides, ils amènent les couteaux.
La courte échelle. Dernier cas, Samuel Umtiti, lui aussi, problème au genou. Alors là, lui aussi, Carlos, c'est récurrent puisque quand il était au FC Barcelone, il y a eu un moment où il s'est arrêté de jouer parce qu'il avait trop mal au genou. Apparemment, c'était parti.
Lui, il passe même d'un genou à l'autre parce que donc il a une blessure sur un genou, donc sur sa fin de saison barcelonaise. Et là, a priori, c'est sur l'autre genou qu'il commence à avoir
des difficultés. C'est la compensation, ça c'est
exactement,
connu.
C'est sans doute la compensation. Donc en tout cas, c'est vrai que ça rassure pas. Donc on avait déjà une défense française qui était un petit peu dans le doute. Et avec l'ensemble de ses blessures, elle l'est encore un peu plus.
Envisageons par exemple qu'on ne pourrait pas échanger ces joueurs. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors on a Pavard qui pourrait remplacer Sidibé. Et puis en défense centrale, ça serait Kimpembe.
Kimpembe qui au final, alors c'est très étonnant, lui a eu très... Pardon.
Mais pourquoi Kimpembe? Varane, Rami, ils ne peuvent pas jouer ensemble?
Non, mais il y a Rami, il y a Kimpembe, voilà, justement. Oui.
Et Rami, au contraire.
Manifestement, Carlos préfère Rami que Kimpembe.
Après, et c'est vrai que Kimpembe, en plus, a été
Il t'a fait plus peur.
il a été peu utilisé par Didier Deschamps, au final, lors de ses matchs, là où Rami, lui, a été sollicité lors de la deuxième rencontre de l'équipe de France. Et Rami, cette saison aussi, a montré ses garanties avec l'Olympique de Marseille. Donc, on peut se dire que Rami a plus de possibilités, mais sur les ailes, j'ai pas plus d'inquiétude que ça parce que Pavard a montré au final, on pouvait se poser des questions, il a montré ses qualités sur le côté droit et puis à gauche Lucas Hernandez. Alors Benjamin Mendy, vous allez me dire avec le potentiel, hein, Benjamin Mendy est largement au-dessus, mais Lucas Hernandez là aussi a montré ce qu'il pouvait le remplacer.
Tout à fait d'accord.
Donc il y a
tout
pas lieu de s'inquiéter.
Et Carlos Manqui est d'accord avec moi.
Fait d'accord.
J'arrête.
On se sent
exactement.
On se sent mieux après quand on sort du studio. À noter une parce qu'on parle de France. France et de, tout à l'heure vous parliez du, de OM et PSG, cette éternelle, notre Barça Real à nous, hein. Mais pour ce qui est du Paris Saint-Germain, on attendait cette nouvelle depuis quelque temps, et bien l'UEFA a décidé aujourd'hui de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain au sujet du fair play financier. Donc on laisse la bride sur le cou, hein, à cette équipe parisienne qui peut dépenser sans compter, si on résume ça. On y reviendra, bien sûr, ces prochaines heures. On va rester au niveau de l'équipe de France, mais on va parler des anciens de l'équipe de France.
Et troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football.
Alors on n'y échappe pas en France en ce moment parce que c'était il y a 20 ans déjà, mais on l'avoue, pour certains, on se lasse pas. Il y a un certain plaisir à revoir ces champions du monde de 1998, même s'ils ont 20 ans de plus dans les jambes, on va
parfois
dire.
Dans le ventre aussi.
Pas tous quand même, hein. Ils sont plutôt, comment on dit, affûtés. Ils se sont retrouvés en tout cas hier soir pour un match de gala, on peut appeler ça que de cette manière. Il y avait près de 30 000 spectateurs, c'était à la Défense Arena, tout près de Paris, et il y avait donc 30 000 personnes de tout âge pour les applaudir, pour les admirer et surtout pour leur dire encore merci.
Ah, Zizou quoi, Zizou, moi j'ai le maillot Zidane là, voilà, j'ai envie de l'avoir à mettre de tête, de coups de tête encore là, comme en 98, ça serait cool.
Pour lui faire voir un peu les héros de cette époque, qu'il a pas connu parce qu'il était pas né évidemment, puis qui revive tout ça, mais je crois qu'il a déjà bien compris, hein. il a vu quelques émissions de télé là, quelques reportages, il a vu l'importance de la chose et puis il se prépare pour aller en Russie et lui il a envie de l'avoir gagné en vrai aussi.
Alors ces champions du monde de 1998, ils étaient presque tous là, sauf l'un des plus fameux d'entre eux qui est Didier Deschamps, bien sûr, qui est en Russie. Il y avait aussi Trezeguet qui n'était pas là, lui, pour son travail auprès de la FIFA. En tout cas, les champions qui jouaient contre une sélection du monde du même âge, hein, des joueurs aussi plutôt de 1998, eh bien ils ont gagné 3-2. Un petit mot sur ce match, Étienne, parce que c'était pas vraiment le spectacle n'était pas tant sur la pelouse, même si on a eu droit à des buts sympathiques.
Oui, surtout celui de Zidane qui lui pour le coup est affûté, du ventre il en a pas, et là vous avez raison, ouais. On le voit quand il est entraîneur.
Il a fait tout le match, hein. Il a
avec
fait
le Real, toujours avec son costume très ajusté, donc on devinait qu'il avait pas de ventre, il y a confirmation. Là évidemment c'est pas le spectacle sur la pelouse, c'est plus l'état d'esprit et le côté souvenir donc qui revenait un petit peu pour tout le monde. Mais vous avez évoqué donc ceux qui étaient absents. Évidemment, David Trezeguet, c'était anecdotique parce qu'il avait des obligations en Russie. Didier Deschamps aussi, mais il y a une vraie fracture aujourd'hui entre Didier Deschamps et pas mal de ses camarades champions du monde, parce que dans l'organisation de ce match, on va dire qu'il n'a pas été partie prenante. Et s'ils ont finalement décidé de le faire à ce moment-là, forcément, lui ne pouvait pas être là. Et il y a un peu une rupture entre ceux qu'il critique beaucoup, qui sont consultants sur pas mal d'antennes et qu'il critique. Et donc, entre Deschamps, la fédération d'un côté, et France 98 de l'autre, ça fonctionne pas très bien.
Ouais, bon, c'est peut-être pas non plus pour toujours, on va dire. En tout cas, ils l'ont affirmé. C'était la dernière fois, vraisemblablement, qu'ils jouaient ensemble.
Bah, s'ils se redonnent rendez-vous dans 20 ans, ça va peut-être un peu long quand même là.
Et là, il y aura plus de poids encore, hein. Des ventres encore plus arrondis.
Cheveux,
hein.
Peut-être. En tout cas, il y a eu un but de Thierry Henry au départ sur une passe de Zidane.
Alors, qui est pas mal encore, Thierry Henry.
Hein, pas mal aussi. Et puis un coup franc un peu plus chanceux, mais c'était de Candela. Alors c'est 80 minutes, en tout cas Zinedine Zidane les a disputés avec envie, et on va l'entendre, Zinedine Zidane. La veille il s'expliquait sur TF1, il parlait un peu de ce qui lui arrive actuellement, il revenait aussi à ce statut qu'ils ont de champion du monde, parce qu'ils le racontent très bien tous, il se passe pas une journée sans qu'on leur rappelle ce statut, et Zinedine Zidane le dit au micro de nos confrères de TF1, j'irai au bout de mes rêves.
Vous savez, mon rêve il s'arrête jamais, hein. Je vis ma vie pleinement, je la vis avec passion et à chaque fois qu'il y a quelque chose devant moi, j'essaie de le faire du mieux possible. Et là, encore une fois, d'avoir vécu ça avec Madrid, de la façon dont les choses se sont passées, d'avoir gagné 9 titres en 2 ans et demi, c'est fabuleux. Mais après, il y a une suite derrière.
Vous savez que les Français ont un rêve pour vous, vous en doutez bien.
C'est-à-dire ?
Vous savez bien que quand Didier il aura fini son travail, qu'il nous aura rapporté une deuxième étoile qu'il voudra s'arrêter.
Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est qu'il faut soutenir l'équipe de France, il faut...
Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires, mais il faut arrêter, parce que j'ai pas arrêté pour vouloir prendre l'équipe de France, non. J'ai arrêté pour faire une parenthèse. Là, moi, je suis derrière l'équipe de France à fond, à fond. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle ramène un deuxième titre, et je pense qu'il y a, il y a la place pour faire quelque chose de très bien.
On a l'impression, Salim, qu'il se bonifie avec le temps, certains de ces champions du monde, et notamment Zidane. On se souvient de quelqu'un de très timide qui parlait fort peu. Là, c'est carrément le contraire.
Oui, comme quoi le fait aussi d'avoir été entraîneur du Real Madrid, donc de l'un, si ce n'est le plus grand club du monde, de parler régulièrement en conférence de presse, même si ces conférences de presse n'étaient pas non plus les plus intéressantes au monde, mais le fait de parler simplement de manière en hebdomadaire, ça lui a permis effectivement de faciliter les choses, faciliter ainsi la libération de sa parole. Et c'est vrai que Zidane, on a vu ce sourire aussi arboré par le champion du monde, et régulièrement là dans cette interview, mais même dans d'autres séquences, on le voit vraiment avec le sourire. Oui, c'est un autre Zidane qui a la carrière d'un sélectionneur.
Ça marche toujours. Les champions de 98, ils font toujours rêver, Étienne, parce qu'il y a régulièrement des reportages. Et là, il y a eu un documentaire dont tout le monde parle maintenant. Il a été diffusé dimanche soir, qui s'appelle 98, Les secrets d'une victoire, où on revient finalement sur certains épisodes, uniquement des matchs. Et c'était quand même très intéressant. On apprenait des choses dans ce documentaire.
Oui, oui, absolument. De toute façon, c'était une génération, déjà il y a 20 ans, qui était une génération de joueurs évidemment très talentueux, mais surtout des mecs qui étaient des vrais mecs, c'est-à-dire que qui étaient capables de porter donc l'équipe sur leur dos, les uns et les autres, et les uns après les autres. Et on voit aujourd'hui qu'ils tous ont quand même plutôt évolué de manière assez favorable. Et aujourd'hui, elle est aussi portée évidemment par ce souvenir de 98, elle est aussi portée par la personnalité un peu nouvelle, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit de Zinedine Zidane, qui évidemment sort de 3 victoires en Ligue des Champions. Lui aujourd'hui a gardé un charisme qui est absolument incroyable. Donc ça fonctionne, ça fonctionne.
Carlos, vous les voyez comment, vous, les champions du monde? Parce qu'en Argentine, il y en a eu la génération 1986, il y a eu aussi celle de 78.
Ouais.
Ça reste aussi comme ça, alors c'est plus ancien?
Non, mais nous, comme on fait partie, disons, du même métier, on n'a pas beaucoup, disons, pas d'admiration, mais on a, bon, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des mecs qui sont évolués, comme il a dit lui, comme l'a dit Étienne.
Mais auprès de la population, on voit Maradona, évidemment, mais les autres, ils ont gardé une image comme ça, de champion?
Les jeunes, ils gardent, oui, les jeunes, ils gardent dans la mémoire, tout. Et en plus, ils magnifient après.
Oui.
Parce qu'ils grandissent les choses qui sont vécues. Si c'était une demi-bouteille, on a pris une bouteille. C'est comme ça. Mais la question, c'est que tous, ils sont bien, très bien évolués, parce qu'ils travaillent dans son radio, à la télévision, et ils font des choses. Ils ne sont pas disparus du milieu de football.
Ceux de 98, oui. Oui,
98.
Effectivement. Oui, oui. Et on a maintenant 4 sélectionneurs, on comptait hier, entre Deschamps, Blanc, Zidane et Vieira. Finalement, ça fait quand même pas mal. En tout
c'est plus facile parler à la télévision, excusez-moi Annie, qu'être entraîneur. Hein.
Justement, il n'y en a que 4 sur 23. Dans ce documentaire 98, les secrets d'une victoire, il y avait une confidence quand même assez touchante, assez émouvante, qui était dite par le philosophe, comme on le surnomme, Lilian Thuram.
J'aimerais en fait juste dire en fait que j'aime profondément les joueurs de l'équipe de France. Je sais pas, souvent on ne le dit pas, notamment entre garçons, entre coéquipiers, et je voulais juste leur dire que je les aimais fort, mais vraiment fort. Je sais pas si on a le droit. Ça se dit, ça, non? On peut le dire? Ok. Voilà, c'était ça. Que je les aimais fort.
Voilà, ils se déclarent leur flamme, on va dire. Mais c'est vrai que hier, quand ils disaient tous que c'était sans doute pour la dernière fois, il y avait quand même un peu de trémolo dans les voix. Et c'est vrai que bon, ça fait toujours plaisir de les voir, même si hier c'était un match un peu de gala.
Ouais, match de gala, mais quand même, même les propos d'après-match, on les a entendus. Ils voulaient quand même symboliquement le gagner, ce match. D'ailleurs, on a vu à la fin un tacle de Lizarazu qui aurait mérité dans un match officiel un bon jeu
rouge.
Pour dire autre chose. C'était très dur, oui. Il voulait, comme malgré tout, de manière symbolique, gagner ce match.
Ouais. Étienne?
Oui, bah,
il y avait 3 buts quand même.
C'est des compétiteurs, et puis pour l'histoire, ouais, quand même, bon, ça aurait été un peu curieux, donc ils prennent une déculottée, donc contre cette équipe qui n'en est même pas une équipe FIFA 98. C'est pas très bien ce que c'était, parce que donc les Brésiliens n'ont pas réussi à composer une équipe avec ce qu'ils avaient à l'époque.
Emmené par
voilà,
Arsène Wenger.
En tout cas, c'était une belle opération, et réussir à faire une audience pareille sur une grande chaîne comme TF1 pour un match qui normalement sont des matchs qui se jouent sur des terrains, sur des terrains annexes, et évidemment sans caméra de télévision, c'est quand même un exploit.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui à ce Radio Foot International, veille de début du Coupe du Monde. Notez bien que demain, Radio Foot International sera en direct à 16h10, heure de Paris, c'est-à-dire 14h10, temps universel, puisque pour nos auditeurs africains et ceux qui nous suivent par l'appli Pure Radio, eh bien, le match Russie-Arabie Saoudite commencera à 17h. Merci beaucoup à David Finzel et à Guillaume Ploquin. Et à demain donc, 16h10. Et à moi